Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Fini les consultations présidentielles entamées depuis 3 semaines par le chef de l'État. On retiendra que Félix-Antoine Tshisekedi a reçu toutes les couches de la population, voire même certaines figures du FCC, bien que le directoire de cette plateforme a décliné l'offre. Manifestation de la population ce matin à Murundu, dans le sud Kivu. Elle répondait ainsi à l'appel de la société civile de Kabare pour dénoncer l'insécurité grandissante à Kabare et le mauvais état du tronçon routier Murundu-Amsar sur la nationale numéro 2. Et puis, l'invité de ce journal, Maître Claudine Tsongo, de la dynamique femme juriste basée à Goma, elle nous parle du programme Genre, Égalité et Autonomisation de la Femme, dont la troisième phase vient d'être lancée. Elle est mise en œuvre par l'ONG internationale CARE. Madame, Messieurs, bonjour. Débutées le 2 novembre dernier, les consultations présidentielles se sont clôturées hier. Pendant 23 jours, le Palais de la Nation a vibré au rythme des audiences qu'a accordé le chef de l'État aux différentes figures des forces politiques et sociales, ainsi que les représentants des plusieurs couches socio-professionnelles du pays. D'après son porte-parole, l'objectif pour Félix-Antoine Tshisekedi était de fédérer toutes ses forces autour d'une vision commune de gouvernance, qualifiée d'union sacrée pour la nation, et cela afin de garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population. Mais que retenir alors de ces 3 semaines de travaux? Notre envoyé spécial Jacques-Yves Molima au Palais de la Nation nous dresse ce bilan.
Au départ, et d'après son discours du 23 octobre, le chef de l'État devrait consulter les leaders représentatifs de la classe politique et sociale congolaise. Vu sa vision, le président de la CENI a été le premier à être consulté. Et du côté politique, c'est le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui ouvre les balles. Tout portait à croire que le chef de l'État avait envie de faire vite. Ainsi, ils se sont succédés au Palais de la Nation, notamment Léon Kengo Adondo, Bahatilu Kwebo, Kiungu Akumwanza et Moïse Katumbi, mais aussi de grandes figures de confession religieuse, entre autres Cardinal Émérite Laurent Mossengo, le révérend Bokundo Adelecesse, les évêques de la Cinco et le Cardinal Fridolin Ambongo, ainsi que d'autres chefs spirituels, notamment Simon Kimbangu. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege. Mais à force que les jours s'égrenaient, l'assiette du chef s'élargissait. Syndicalistes, sociétés civiles, mouvements citoyens, mamans maraîchères, paysans, artistes, comédiens, et voire même des enfants de la rue et des vendeurs ambulants ont été consultés. Pour faire complet, le chef a ouvert ses discussions aux anciens dignitaires, comme des anciens premiers ministres, des anciens généraux à la retraite, mais aussi aux détenteurs de pouvoirs coutumiers. Il a aussi écouté des gouverneurs et représentants des assemblées provinciales en fonction, des caucus de députés des différentes provinces, ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. Notons bien qu'invité, le directeur du FCC a décliné l'offre. Cependant, certaines figures du FCC ont tout de même répondu à l'appel. C'est le cas des Pius Mabilou, Lola Kisanga, ainsi que les députés nationaux du Nord Kivu, membres du FCC.
Et après la clôture hier des consultations nationales initiées par le président de la République, à Goma, les avis des acteurs locaux sont diversifiés. Toutefois, la plupart émettent le vœu de voir l'issue de ces consultations contribuer à promouvoir la paix dans le pays. Des propos recueillis par Bernard Nyangi.
Si le président prend de bonnes décisions, c'est en notre faveur. Il a écouté les gens, il a nos propositions comme église, et nous pensons qu'il va beaucoup y réfléchir, mais qu'il y ait un changement.
Il faut que tous les acteurs politiques se mettent ensemble pour la construction de la RDC, non pour déchirer la RDC. La RDC a besoin de la paix. Si nos acteurs politiques se mettent ensemble pour le développement de notre pays, moi, je peux féliciter ça.
Notre pays ne doit pas être dirigé par un monstre à deux têtes. Moi, je crois maintenant, on va faire l'autopsie. Il faut lever une tête. Le pays doit être dirigé par une seule personne, pas un monstre. Il est grand temps de sauver ce pays, laisser quelqu'un travailler avec sa vision.
À l'issue d'un constat, il savait qu'il était pris en otage dans la prise de décision. Et donc pour nous, nous saluons tous ceux qui ont été consultés. Nous sommes en train d'attendre que les chefs de l'État tiennent en œuvre ce qu'il a promis au peuple, notamment des mesures draconiennes visant l'intégration de toutes les forces politiques dans la gestion du pays, mais aussi la sécurité au Nord Kivu qui pose problème pour l'amélioration des conditions de vie sociale et économique de la population.
Pendant ce temps, le rassemblement des députés katangais annonce l'arrivée très prochaine à Lubumbashi de l'ancien président Joseph Kabila, annonce faite au cours d'une conférence de presse organisée hier. D'après Martin Kabwelulu, président de ce rassemblement, ça sera la toute première visite du président honoraire dans le Haut-Katanga depuis la passation de pouvoir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il en a profité pour appeler à l'unité de tous les leaders katangais et les a invités à bannir tous les conflits qui les divisent. Martin Kabwelulu, président du rassemblement des députés katangais, est au micro de Jean Gandou.
Regardez dans toutes les provinces, vous allez constater que c'est au Katanga qu'il y a beaucoup plus de conflits entre leaders. Et lorsque vous examinez le mobile de ces conflits, vous voyez le soubassement de ce conflit. Ce sont des simples motifs qui séparent les gens ici. Ou alors, en fin de compte, c'est un problème peut-être d'orgueil de chacun. Et le RDK est en train de travailler là-dessus pour voir si nous ne pouvons pas parvenir à unifier les leaders katangais. Lorsque nous étions ici, nous avons visité certaines notabilités katangaises qui nous ont bien reçus et qui ont accepté de travailler avec nous pour l'unité de tous les leaders katangais. Il n'y a pas de raison profonde de cette séparation. Il n'y en a pas. Ou bien ce sont des luttes de profit, des luttes d'intérêt. Ce n'est pas normal que nous puissions rester comme ça, faire de la politique, parce que tous les leaders katangais qui sont là, ce sont des grandes personnalités. Et lorsqu'ils restent comme ça en conflit, c'est comme s'ils bloquaient toutes les populations du Katanga. Parce qu'il n'y a personne qui s'ouvre.
Dans l'actualité aussi, la stratégie de sortie de la MONUSCO dans le Tanganyika, la section de l'information publique a organisé mardi une séance de sensibilisation à la cohabitation pacifique des populations de Tabakongo. Nous sommes à 17 km au nord de Kalemie. L'activité a bénéficié d'un partenariat avec les sections des affaires civiles, des DD3R et de protection de l'enfant de la MONUSCO. François-Xavier Mibé revient de la zone.
L'équipe du bureau de la MONUSCO Kalemie a bénéficié d'un appui de membres du comité local de paix, des femmes, des jeunes et des enseignants pour mener cette activité à Tabakongo. Objectif, vulgariser la stratégie de retrait de la MONUSCO au Tanganyika. L'occasion offerte à la centaine des participants, dont trois quarts, composés essentiellement des femmes, de pouvoir échanger avec les communautés sur leur implication à la cohabitation pacifique. Ensuite, sur la nécessité de s'approprier et de pérenniser les acquis de la paix dans la localité des Tabakongo affectée auparavant par les conflits Twa-Bantous. Les participants ont été informés sur les domaines d'intervention prioritaires de la MONUSCO en cette période de transition qui prépare son retrait progressif de la province du Tanganyika. La MONUSCO s'est déjà retirée des territoires de Kongolo, Manono, Moba et Nyozu, tout en continuant à travailler pour la protection des civils, la stabilisation, la justice et la lutte contre l'impunité, la promotion des droits de l'homme et la recherche des solutions durables avec les autorités provinciales pour mettre fin aux conflits intercommunautaires. Le chef de localité Tabakongo. Il y a la paix et la cohabitation pacifique que la MONUSCO vient d'apporter dans notre zone. Il nous reste encore d'installer les stratégies par la formation des acteurs pour consolider cette paix entre toi et Bantou. Des retours de Tabakongo, François Djabimbe, Radio Okapi.
Kasaï Central, cette visite de quelques heures hier à Kananga du ministre britannique en charge de l'Afrique à la tête d'une forte délégation composée du coordonnateur humanitaire et de l'ambassadrice britannique en RDC, James Dubridge, est allé se rendre compte de la mise en œuvre des différents projets que la Grande-Bretagne finance dans les domaines de la santé et de l'éducation au Kasaï Central. Blaise Ndongala.
Cet homme d'État britannique a entamé sa visite par le gouverneur de la province où il s'est entretenu avec le ministre de l'Éducation faisant fonction du gouverneur AI. Là, il a assuré l'accompagnement de son pays à la province du Kasaï Central. James Dadridge a ensuite visité le centre de santé Mamouetou situé dans la zone de santé de Katoka. Cet établissement hospitalier a été construit sur fonds du gouvernement britannique dans le cadre du projet appui au système de santé en RDC. Ce projet est exécuté par 100 rues dans 11 zones de santé sur les 26 qui comptent la province. Le ministre britannique s'est rendu ensuite à l'école primaire Bikoukou, située au quartier Plateau, non loin du Kampem. Cet établissement scolaire est l'un des plus de 50 réhabilités sur financement de l'ISAID et d'IFAID. Ici, le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 a remercié le gouvernement britannique pour son appui au secteur de l'éducation. Il faut noter que dans sa visite, le ministre britannique a été accompagné du coordonnateur humanitaire, de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, du représentant de l'UNICEF en RDC et des autres diplomates. De Kananga. Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Direction le sud Kivu, la route nationale numéro 2 qui mène vers la ville de Bukavu jusqu'à l'aéroport de Kavumu est restée bloquée pendant plusieurs heures ce jeudi. Les habitants du territoire de Kabare ont manifesté à l'endroit appelé Murundu, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Bukavu. Ils ont répondu à l'appel de la société civile de Kabare pour dénoncer l'insécurité grandissante sur place et l'état actuel du tronçon routier Murundu-Amsar. La société civile de Kabare dit avoir enregistré 11 cas de meurtre dans le territoire de Kabare en l'espace d'un mois. Il a fallu l'intervention de la police pour disperser les manifestants et rétablir le trafic sur cette route d'intérêt national. Emmanuel Bengeya, président de la société civile de Kabare, explique au téléphone de Emmanuel Elamegi.
Une grande partie de la population de Kabare est sur la route nationale numéro 2, précisément à Murundu, pour revendiquer que l'insécurité revienne dans le territoire de Kabare, mais aussi l'arrêt des travaux de la route nationale numéro 2 sur les liens Murundu. Nous avons repéré 11 cas d'assassinat. Nous étions là depuis 7h du matin lorsqu'il est arrivé 11h. Nous avons vu des jeeps de policiers en provenance de la ville de Bukavu venir nous disperser et nous sommes courus, chacun a pris sa direction. Et donc nous condamnons cette façon de faire de la police parce que nous avons informé l'autorité territoriale et il a accepté que le site est lié. Mais nous, vraiment nous sommes très désolés de voir que ces policiers sont venus disperser. Il n'y avait pas vraiment la circulation depuis le matin vers 7h jusqu'à 11h. Il y a vraiment plus de 100 policiers maintenant qui ordonnent aux véhicules de passage, quoi.
Justice, c'est aujourd'hui que la brigade de la police criminelle va déférer le ressortissant grec Emmanuel Stoupis au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cela après 48 heures passées au cachot. Stoupis est poursuivi à la suite d'une plainte de l'ancien bâtonnier de Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo. Il lui est reproché l'usage de faux. Muyambo l'accuse également de complicité de torture et d'escroquerie présumée. Rappelons que c'est le 7 novembre dernier qu'on a assisté à un retournement de la situation dans l'affaire dite des immeubles spoliés jadis dans le Haut-Katanga, affaire qui avait abouti à l'emprisonnement de l'ancien bâtonnier. Aujourd'hui, ce dernier veut rétablir la vérité. Justice toujours. 72 heures après sa condamnation par la cour militaire opérationnelle à Goma, le chef de la milice de Nduma Defense of Congo a été transféré hier à Kinshasa par un vol régulier de la MONUSCO. L'information est confirmée par des sources de la mission. Pour l'instant, les quelques acteurs locaux et politiques de Walikale ne veulent toujours pas se prononcer sur l'arrêt de la cour militaire. Le point avec Gabriel Wamenya.
Les chefs rebelles et jadis responsables de la milice d'Nduma Defense of Congo, condamnés lundi dernier à la peine à perpétuité par la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, a été finalement transféré hier jeudi à Kinshasa. Les sources de la mission onisienne au Congo précisent que l'homme qui a endeuillé plusieurs familles dans les territoires de Walikale se faisait des lois qui a pris des armes contre sa patrie et ses concitoyens a été embarqué dans un vol régulier de la MONUSCO. Quant à la question de savoir si ce grand bourreau sera-t-il incarcéré dans une prison à Kinshasa ou sera-t-il transféré dans une autre prison de haute sécurité, nos sources sont restées muettes. Par ailleurs, les quelques acteurs coutumiers politiques ainsi que la société civile du territoire de Walikale, où Tcheka avait commis plusieurs exactions, ne veulent toujours pas exprimer leurs impressions après l'arrêt de la cour qui a condamné ces grands brigands à de lourdes peines. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Matadi sur la 103 FM. Dépôt hier à l'Assemblée provinciale du Congo central du projet d'édit budgétaire exercice 2021. Il a été déposé par le ministre provincial du budget et de l'ordre de près de 3 milliards de francs congolais. Tristan Aloïs Lubela Mbumba a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central entouré des membres de son bureau et des ministres provinciaux. Le ministre provincial du budget indique que ce budget est réaliste selon lui du fait qu'il prend en compte le social de la population. Mais en ce qui concerne la construction des infrastructures de base dans cette province, ce dernier s'est plaint du non-octroi depuis 2016 du fonds des investissements par le gouvernement central. Tristan Aloïs Lubela est au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous vous présentons ici un budget réaliste. Vous avez vu que le budget 2020 qui était surévalué, nous étions obligés de le réduire pour que nous soyons proches de la réalité. De la même manière, nous avons fait un effort pour augmenter les recettes locales. Parce que vous savez que les recettes à caractère national de rétrocession n'arrivent pratiquement pas. Lorsque vous parlez des hôpitaux sans médicaments, des écoles ou des infrastructures qui ne sont pas construites, c'est parce que depuis 2014, les crédits d'investissement n'arrivent pas en province. Toutes ces années, nous comptabilisons zéro à la rubrique des investissements. En réalité, nous devons dire, Congo central, il n'y a pas de crédit d'investissement, ça signifie ne construisez pas. Mais le gouvernement, dirigé par son Excellence Monsieur Atou Matouane, a fait un effort pour prendre un minimum dans nos recettes locales et les placer aux investissements pour que la population voit qu'on s'occupe d'elle. C'est ce que nous faisons.
Actualité internationale. Nous sommes au Mali. Le nombre des régions maliennes passe de 15 à 20 suite au nouveau découpage régional. À cette occasion, 13 militaires proches d'Assimi Goïta, le vice-président chargé des questions de défense et sécurité et homme fort de la junte, ont été nommés à la place des civils pour diriger la plupart des régions. Et puis cette triste nouvelle, l'Argentine pleure son héros. La star du ballon rond, Diego Armando Maradona, est décédé d'un arrêt cardiaque hier à 60 ans. La dépouille du footballeur argentin champion du monde en 1986 est arrivé au palais présidentiel à Buenos Aires, lieu de la veille funèbre. Des milliers de personnes lui ont déjà rendu hommage dans les rues de la capitale où l'émotion est immense.
L'invité.
Comment aider les femmes à exercer réellement leurs droits socio-économiques, civils et politiques? C'est l'un des objectifs du programme lancé lundi à Goma par la ministre provinciale du genre. Cette troisième phase du programme Genre, égalité et autonomisation de la femme est mise en œuvre par l'ONG internationale CARE. Il cible 150 000 personnes pour une période de 5 ans. Pour en parler, nous recevons maître Claudine Tsongo de la dynamique femme juriste basée à Goma. Elle est avec Sifa Maguru.
Maître Claudine, bonjour.
Bonjour, vous êtes de la dynamique femme juriste. Vous venez de lancer un programme au cours d'un atelier. Pouvons-nous savoir c'est quel programme et qui sont concernés?
Oui, merci. Bien sûr, c'était le lancement du programme GEWEP, ce programme genre, égalité et autonomisation de la femme. Et donc, en Swahili, qu'on symbolise par Pamoja Yawezekana. C'est un programme qui est dans sa troisième phase parce qu'il y avait GEWEP 1 et 2. C'est un programme également qui implique 5 partenaires avec CARE qui sont répartis dans différentes composantes. La composante développement socio-économique, la composante société civile, gouvernance et plaidoyer, la composante engagement des hommes et transformation de normes sociales et la composante résilience et gestion de conflits. Ce programme qui cible 150 000 personnes pour les 5 années au niveau de la province du Nord Kivu, notamment à Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Masisi et Lubero, essaie de voir comment aider les femmes à exercer réellement leurs droits socio-économiques, civils et politiques. Et cet exercice passe, selon le programme, à travers d'abord la transformation de relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Parce que vous êtes sans ignorer que les femmes, bien sûr, subissent souvent des discriminations liées aux us et coutumes. Et donc ce programme-là, qui va toucher 5 années, concourt un peu à ces objectifs.
Et en quoi le programme est différent de 2 premiers autres programme? Est-ce que c'est une continuité ou quoi?
Oui, le programme en soi c'est une continuité parce que les mêmes indicateurs qui sont poursuivis aujourd'hui sont presque les mêmes qui étaient également poursuivis à travers le programme GEWEP 1, GEWEP 2. Mais vous comprendrez qu'il y a toujours une plus-value. Et donc le programme GEWEP 3 consolide sur les acquis du programme GEWEP 2 et essaie d'améliorer maintenant les défis, les écarts qu'il y a eu à travers le programme GEWEP 2. Parce que vous êtes sans ignorer que par exemple l'accès de la fille à l'éducation reste un problème. Et vous comprendrez également que le pouvoir économique des populations les plus vulnérables est toujours un défi. Mais l'approche du programme, c'est toujours à travers les associations villageoises d'épargne et de crédit et l'entrepreneuriat. Et donc, il y a eu déjà des AVEC qui ont été formés avec le programme ancien et des réseaux des AVEC. Donc, le programme GEWEP 3 va non seulement élargir le cercle des AVEC en touchant de nouvelles cibles, mais consolider également les efforts des AVEC passés pour renforcer leur pouvoir entrepreneurial et avec le nouveau également, les aider ensemble à rayonner. Et donc, il y a de nouvelles cibles
à travers le GEWEP 3, mais tout en touchant le même problème du pouvoir économique. Et donc, le programme également va donner un accent particulier sur la masculinité positive, l'engagement des hommes pour la transformation des normes.
Tout à l'heure, là, vous avez fait allusion au pouvoir économique de la femme, qui peut aussi contribuer à ce que la femme puisse aussi occuper des postes de décision sur le plan politique. Pourquoi ?
C'était une façon de montrer qu'il y a plusieurs voies d'accéder au pouvoir de prise de décision. Bien sûr, il y a des voies formelles, parce que quand nous parlons des instances de décision, nous voyons également les institutions, par exemple, de notre pays à différents niveaux. Et les voies sont connues, soit par les élections, soit par les nominations ou les cooptations. Mais souvent, nous constatons toujours que les femmes n'y sont pas à la hauteur de besoins. Et nous avons compris avec les expériences d'autres pays que le pouvoir économique également, l'accès pour que les femmes participent aux prises de décision. Si les femmes commencent à avoir ce pouvoir économique, c'est également un contrepoids qui va leur donner la porte de manière douce aux instances de prise de décision. C'est pour cela qu'avec le VSLE, par exemple, les AVEC, au niveau de famille, les femmes-là qui contribuent dans la mesure du possible au développement de leur famille, d'une manière ou d'une autre, participent déjà aux décisions. Parce que le mari, les enfants ne peuvent plus faire quoi que ce soit sans compter également sur la voix de la femme qui apporte l'argent, qui apporte l'épanouissement économique à la famille. Et donc, sans se battre d'une manière ou d'une autre, les femmes, à travers le renforcement du pouvoir économique, vont également s'imposer sur le plan des décisions. Et c'est également une des approches du programme.
Merci beaucoup, Madame Claudine.
Je vous remercie aussi.
Maître Claudine Tsongo de la dynamique femme juriste basée à Goma s'entretenait avec Sifa Maguru. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Peleki Pelamondo, coordination de Élisée Chikota Chivueta. Jean-Claude Nsial a été à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.